Salam alaikum, bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui, on va continuer donc notre travail sur le langage arabe et l'utilisation de ce langage par le Coran, par le discours divin, en parlant de la racine Jahada, plus exactement de la racine Jim, Ha, Wadal. Alors, bien entendu, on va étudier cette racine en revenant sur ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire l'utilisation, ou plutôt la. Essayer de comprendre, excusez-moi, les deux actes porteurs de cette racine. Et pour cela, je vais vous donner, comme d'habitude, ce que dit Ibn Faris. Il nous dit finalement que cette racine-là apporte deux grandes idées. Il nous dit le mashaqqa wa taqa. Donc le mashaqqa, ce serait l'idée de pénibilité, de travail pénible, de voilà. Il y aurait d'autres idées, mais c'est ça la grande idée en fait. Donc l'idée de pénibilité, d'effort. De pénibilité, d'effort dans quelque chose. Avec quand même, faut le noter, l'idée de pousser, c'est-à-dire de un effort qui fend les choses. Parce que shaqqa veut dire aussi pour fendre. Hein. Un peu comme tout simplement la plante lorsqu'elle fait un effort pour pouvoir percer, fendre, pour fendre la terre et sortir. C'est ça l'idée. C'est cette idée-là de finalement un effort pour fendre, traverser quelque chose. À peu près l'idée de le mashaqqa. La deuxième idée qui est très intéressante, il nous dit At-taqa. At-taqa, c'est l'idée de l'énergie, de l'idée de pouvoir faire quelque chose, être de force à faire quelque chose. Donc c'est vraiment cette d'énergie, de force, de puissance. Hein, At-taqa. On va rester sur ces deux idées-là. Alors, on pourrait rajouter quand même quelque chose que nous dit Isfahani qui peut être intéressant. Il nous dit Al-Juhd, dans le sens de Jahada, c'est l'idée aussi de. Il nous dit Al-Wusa, c'est-à-dire l'ampleur. L'ouassa, c'est d'ampleur, mais dans le sens de capacité, c'est-à-dire avoir la capacité, comme on dit, avoir les épaules pour faire quelque chose. Donc, cette idée d'avoir l'ampleur et l'énergie, donc l'idée de taqa ici, elle est là, l'énergie d'accomplir quelque chose et créer cette énergie quelque part. Alors, comme à notre habitude, ce qu'on fait maintenant, c'est on va lire les usages et puis on va essayer de voir si il colle avec ce que nous dit Ibn Faris et ici Isfahani. Alors là, pour cette racine-là, je vous prends juste le verbe jahada, il suffira largement. Jahada, première idée, nous dit-on, c'est extraire tout le beurre du lait. Hein? Par exemple, ils disent les Arabes, hein, je prends Feyruzabadi, il nous dit, les Arabes, ils disent jahada al-laban, jahada al-labana, laban dans le sens du lait. Donc qu'est-ce que ça veut dire jahada al-laban? Ça veut dire, nous dit-il, akhraja zabdahu kullah. Donc, c'est le fait de sortir le beurre, mais entièrement, d'extraire totalement le beurre du lait. Quand vous faites ça, vous faites du jihad, ou bien du juhd. Quand vous faites du jihad sur le lait, c'est que vous extrayez toute la crème, hein, le beurre qu'il y a dans le lait. Deuxième idée, deuxième usage, on nous dit surcharger une bête de somme de manière à lui faire recueillir toutes ses forces. Hein. On dit jahada dabbatu, donc dabbatu, non, dab, excuse-moi, jahada dabbatahu. Donc il a fait le jihad sur sa monture, ça veut dire balara jahda, jahda. Il lui a fait atteindre la plénitude de ses forces en fait. Donc il l'a surchargé un peu pour lui faire atteindre la plénitude de ses forces. Troisièmement, troisième idée qu'on trouve aussi, c'est lorsque on parle d'une maladie qui va vous exténuer, vous épuiser. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. Autre idée encore, nous dit-on c'est c'est Feruzabadi qui nous rapporte ça. Il dit jahada ta'ama, ça veut dire ishtahahu. D'accord? Celui qui fait le jihad sur la nourriture, quand il fait l'action de jihad sur le ta'am, qui est la nourriture, ça veut dire, dit-il, qu'il a, c'est avoir un grand appétit, manger avec appétit, mais dans le sens de, c'est un désirer quelque chose avec appétit, avec tellement d'appétit qu'on va le mâcher comme il faut, qu'on va vraiment prendre le temps de le manger. Ok. Et le dernier point. Ou plutôt, on va laisser le dernier point à la fin, parce que celui qu'on connaît, l'idée de faire un effort, en revenant d'abord à ces quatre points-là. Alors, quand on regarde ces quatre points-là, qu'est-ce qui ressort? C'est finalement l'idée de. Si on prend l'idée du lait, quand vous allez prendre le lait pour faire sortir le beurre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le barater, hein, c'est-à-dire le secouer très fortement. Il y a mashaqqa, il y a une pénibilité, il y a un effort à faire. Et cet effort-là, il va créer une énergie, quelque chose. Et cette énergie-là, elle va faire ressortir quoi? La crème, le beurre qu'il y a dans le lait. qu'en prend la bête? Qu'est-ce qu'on lui fait quand on la surcharge un peu pour lui faire recueillir toutes ses forces? D'accord. Ben en fait, qu'est-ce qu'on fait? On la surcharge, donc c'est une pénibilité, c'est un effort qu'elle doit faire, mais qui va faire ressortir en elle une énergie, taqa, qui va lui permettre d'avancer. Okay? On va donner un autre exemple pour que vous compreniez mieux, un exemple plus moderne. Quand par exemple aujourd'hui un homme fait de la musculation, qu'est-ce qu'il fait? Supposons par exemple quelqu'un, il va pousser voilà, des poids de 10 kilos. D'accord? À un moment donné, ça lui sert plus à rien en fait de pousser des poids de 10 kilos. Il fait des poids de 10 kilos, ça le maintient et puis c'est tout. Mais s'il veut faire ressortir des choses qu'il y a en lui qu'il ne savait pas, c'est-à-dire qu'il est capable de pousser 20 kilos. Vous dites, bah, je suis incapable, moi, je serais incapable de pousser 20 kilos. Alors bien sûr, on va dire 100 kilos, peu importe, hein, c'est pas important le poids. Si, pour passer de 10 kilos à 20 kilos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer de 10 kilos, pas directement à 20 kilos, il va mettre 11 kilos, il va surcharger un petit peu le poids, et donc ça va être pénible. Mais cette pénibilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'obliger à recueillir toutes ses forces, et en recueillant toutes ses forces, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégager de l'énergie qui va le muscler. Et donc il va le faire ressortir quoi? On va pas dire la crème, on va pas dire le beurre, mais on va faire ressortir le meilleur de lui-même en termes d'énergie, de puissance. Et donc il va gonfler, il va être plus fort. D'accord? La même chose pour le sport. Hein. On court comment? Bah, on s'exerce la discipline. Plus on court, et bah, plus on peut courir plus longtemps et plus vite, etc. Donc c'est vrai pour tout effort. Tout effort mène à faire ressortir le meilleur de soi-même. Troisième idée, on avait vu l'idée de du at-ta'am, la nourriture. En fait, ce qui est dit ici, ishtahahu, donc jahad at-ta'am, c'est dans le sens de si vous voulez faire ressortir le meilleur de l'aliment, c'est-à-dire toutes ses saveurs et tous ses nutriments, il faut prendre le temps de mâcher avec appétit. Quand vous avez de l'appétit et que vous mâchez et que vous prenez le temps, qu'est-ce que vous faites ressortir? Vous faites ressortir toutes les saveurs, les nutriments, les choses vraiment bénéfiques qu'il y a dans cette nourriture. Et on voit bien que c'est la même idée que la personne qui fait ressortir toute ses potentialités physiques, ou la même chose que fait ressortir la crème ou le beurre du lait. L'autre idée qu'on avait vue, c'était la maladie lorsqu'elle vous exténue, hein, on dit hazalahu. Ce qu'on dit Feruz Abadi dit lorsque la maladie fait du jihad sur vous, on dit elle fait du hazal, c'est-à-dire elle vous exténue, elle vous épuise, elle vous prive des forces. Mais dans quel sens? C'est dans le sens où, en fait, lorsque la maladie vient, c'est vrai qu'elle est pénible. Mais en fait, en vous exténuant, en vous épuisant, elle oblige le corps à quoi à faire? Eh bien, à se défendre. Et en se défendant, il va se renforcer. Parce que la maladie, c'est jamais une chose négative, c'est une chose éminemment positive, qui est de vous faire recouvrir la bonne santé. Hein, lorsque vous tombez malade, c'est pas la maladie le problème. Vous tombez malade parce que vous avez un problème. Et la maladie n'est là que pour régler ce problème-là. D'accord? Ça, faut le savoir. Et donc là, l'idée, vraiment, les arabes ont bien perçu la chose, que c'est un jihad. C'est-à-dire, ça fait ressortir le meilleur de vous-même. Ça va vous rétablir une bonne santé. Ça vous oblige, par exemple, vous tombez malade parce qu'en fait vous mangez trop de gras. Et donc le corps, il va se débarrasser du gras, donc il va vous remettre en bonne santé. Il va vous faire comprendre que ben, maintenant, il ne faut plus manger de gras, pardon, ou beaucoup moins. Bon, bref. La dernière chose qui est intéressante, donc, c'est nous donner la grande idée, et c'est ce que nous dit notamment, je crois, dans l'Isan l'Arabe Ibn Mandour. Il dit, on utilise l'expression ijhad jahdaka, yani ablour rayatak. Lorsqu'on dit à quelqu'un ijhad jahdaka, c'est-à-dire fais le jahd de toi-même, d'accord? Ça veut dire ablour rayataka, c'est-à-dire fait mature pour te faire parvenir on va dire, à ton objectif. Et donc ça donnait l'idée de travailler avec zèle, avec effort, pour atteindre son objectif. D'accord? C'est ça le djihad. D'un point de vue, on va dire, de l'effort, par exemple intellectuel ou autre, ou spirituel. Donc si on regarde bien, finalement, djihada, c'est quoi l'idée? Quand on parle de mashaqa, c'est vrai, il y a une pénibilité, mais une taqa, une création d'énergie. Une création d'énergie qui fait que l'ensemble, la pénibilité, l'énergie que vous allez créer, va faire ressortir la troisième grande idée qui est quoi? C'est de faire ressortir la crème d'une chose, la crème dans les choses, le meilleur des choses, le meilleur qu'on trouve dans les choses pour le faire toujours se développer de façon toujours plus positive. Et là, c'est intéressant parce qu'on se dit, bah alors, c'est quoi le djihad? Parce que pour ça, on n'a pas parlé de djihad, on a parlé de djihad. Hein, là, on a parlé de djihad, c'est le verbe, c'est le verbe djihada dont on a parlé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la notion de djihad dans le Coran. Si vous regardez bien, eh ben, en fait, djihad, c'est le masdar du verbe djahada, qu'il faut pas se tromper avec le verbe djahada. C'est à peu près la même chose. Il y a une nuance qui apporte, ce qu'on appelle ça, c'est la forme 3. La nuance qu'elle apporte, c'est quoi? Les grammairiens nous disent que cette forme-là, elle apporte l'idée d'interaction c'est-à-dire le musharaka, hein, les arabes disent il y a une musharaka, une interaction, et en même temps une continuation de l'acte. Mualatun. C'est-à-dire, je vous explique. À chaque fois que les arabes voient que telle action, elle se fait en interaction et qu'elle crée une continuation de l'effort, alors ils vont passer à la forme 3. Par exemple, si on dit alors je trouve pas là, j'ai pas l'exemple, peu importe. Si on va prendre daraba, alors prendre de daraba, alors pour faire simple, on dirait que daraba ça veut dire frapper, d'accord? C'est un des sens possibles. Si vous dites frapper par exemple, daraba. Mais si par exemple vous frappez quelqu'un, vous devez dire daraba. Mais si par exemple vous voulez le frapper, mais que lui il se laisse pas faire, il esquive votre coup, il essaie lui de vous frapper après pour se défendre, et que tout à coup vous mettez à vous battre. Les Arabes ne diront plus, ils diront plus daraba. Ils vont utiliser la forme 3, ils diront daraba. D'accord? Qui veut dire quoi en fait? C'est le même acte, l'idée de frapper, seulement comme il se fait en interaction, quand vous vous êtes frappé, l'autre est en interaction avec vous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de continuer votre effort, votre acte, parce que peut-être qu'il va esquiver votre coup, vous êtes obligé de continuer. Donc il y a interaction et continuation. Et donc ils ne diront pas un tel, si vous dire que par exemple Amr a frappé Zayd, parce que Amr il est plus fort que Zayd, il a frappé de poing, vous direz Zayd, Daraba Amr, enfin Daraba Zayd ou Amr, d'accord? Amra. Par contre, vous voulez dire qu'il ne l'a pas frappé, mais qu'il s'est battu avec lui, parce qu'il a voulu le frapper, mais l'autre ne s'est pas laissé faire. Vous ne direz pas darabahu, vous direz darabahu. Et c'est ad-dirab. Jahada, c'est la même chose. Quand vous dites jahada, c'est l'effort pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Mais quand vous dites jahada, qui a donné l'idée de jihad, c'est qu'en fait, vous faites la chose, mais en interaction et en continuation. Alors, l'explication. Quelle est l'explication pour bien comprendre? C'est que lorsque vous faites le djihad, hein, c'est djihad al-nafs, hein, d'accord? Le vrai djihad, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, c'est djihad al-nafs. Donc c'est le fait de faire le djihad avec son âme. En fait, la différence, pourquoi on utilise djihada et pas djihada, c'est parce que quand vous prenez par exemple le lait et que vous le barattez pour faire sortir le beurre, bien, il suffit de le secouer, 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 ou bon, peu importe les techniques de barattage, en fait vous faites tout ce qu'il faut, le djihad qu'il faut, pour que le beurre sorte. Et le beurre sort. D'accord? Sauf que votre âme, quand vous allez la prendre et la barater, faire du jihad sur elle, la secouer, c'est quoi le but? C'est de faire ressortir le meilleur d'elle-même. C'est ça, hein? C'est pas autre chose. Dieu nous demande de faire ressortir la crème. On a en nous des potentialités, l'homme en lui des potentialités infinies, incroyables. C'est l'idée même de la fitra que souvent l'être humain néglige. Il néglige parce qu'il n'est pas dans le choukr. S'il était dans le choukr, dans la reconnaissance de ce que Dieu lui donne, il pourrait en fait se développer de manière incroyable. Et le djihad, c'est ce qu'il permet. Sauf que, lorsque vous allez prendre votre âme, et vous allez la barater, pour faire ressortir le meilleur d'elle-même, c'est pas du lait, l'âme. Elle est vivante. Elle va se défendre. Elle va vous empêcher. Elle va être en interaction. Et parce qu'elle est en interaction, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous êtes obligé de continuer l'acte. Vous serez en continuation de cet effort. Par exemple, vous dites, bah tiens, allez, moi, je vais, mon âme, je vais la rendre... forte en me réveillant tous les matins au Fajr, faire la prière, faire ceci, cela, aller faire du sport, etc. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le réveil. Vous vous réveillez le matin, ben c'est du djihad. Vous croyez qu'elle va, ça va se faire comme ça? Elle va pas se laisser faire, elle va dire reste dormir. Et donc il va y avoir une interaction avec elle. Et souvent c'est elle qui va gagner, vous allez vous endormir, vous n'allez pas faire le Fajr. Et donc qu'est-ce que vous devrez faire? Continuer l'acte de djihad. D'accord? C'est pour ça qu'on ne dit pas djihad, mais on dit djihad. C'est un djihad, c'est pas un djihad. C'est pas juste faire ressortir le meilleur de votre âme. C'est faire ressortir le meilleur de votre âme, mais en interaction avec elle, en continuation. Parce qu'elle ne se laisse pas faire. Et c'est une bonne chose, parce que moins elle se laisse faire, et plus ça vous oblige à plus d'efforts, et donc plus ça vous oblige à faire ressortir ce qui est encore mieux, le meilleur de vous-même. Voilà. Donc vous voyez que là encore, quand on prend la langue arabe, ben on comprend mieux l'idée du djihad. Et pour faire comprendre ça, le Coran nous donne des indications très intéressantes. Et je vais vous prendre... deux versets. Le premier, c'est un verset qui nous montre que le djihad, c'est vraiment l'idée de faire ressortir le meilleur de votre âme. C'est que souvent, les gens disent, oui, le djihad, on le fait pour Dieu. C'est une erreur, en fait, de dire le djihad, on le fait pour Dieu. Jamais Dieu, dans le Coran, ne dit djahidou lillah. On ne fait pas le djihad pour Dieu. D'accord? Bien au contraire, on le fait pour notre âme. Et la preuve, le dalil, c'est la sourate 29. Verset 6, hein, sur la 29, verset 6, Dieu nous dit: Waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Celui qui fait le djihad ne le fait que pour son âme. Hein. C'est un hasr. Ça veut dire qu'il ne fait que pour son âme, pas pour Dieu. C'est pour son âme, parce que le djihad, c'est quoi? C'est faire ressortir le meilleur de l'âme. Donc c'est pour lui-même qu'il le fait. Par contre, vous allez me dire, oui, mais on dit bien faire le djihad pour Dieu. En fait, non. Quand vous regardez le Coran, qu'est-ce qu'il dit? On dit, faites le djihad fi sabilillah, dans le chemin vers Dieu. Ce qui est différent. Et plus vous allez vous sortir le meilleur de vous-même, et plus vous allez vous rapprocher de Dieu, effectivement. Vous ne faites pas le djihad pour Dieu, vous faites le djihad pour vous, sur le chemin vers Dieu. Et l'autre preuve qu'on donne, c'est que quand on ne dit pas le djihad fi sabilillah, qu'est-ce que dit Dieu? Surat 22, verset 78. Wajahidu fillah. Il ne dit pas jahidu lillah. Il dit et faites le djihad en Allah. C'est-à-dire avec la conscience d'Allah. On pourrait dire ça comme ça. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Hein? Donc faites le djihad de votre âme, pour votre âme, en Dieu. Donc là, on voit bien que vraiment, le djihad, c'est pour notre âme. On peut donner encore un autre exemple, sur la 29, verset 69, où Dieu nous dit Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui font le djihad en nous, pas pour nous. Parce que c'est que pour vous, c'est votre âme que vous allez rendre meilleur. Par contre, vous faites en Dieu, fina, en nous, alors nous leur montrerons nos chemins. Tout cela étant dit, on comprend donc que, ici encore une fois, la langue arabe nous a permis de comprendre cette idée d'effort. Hein? Le djihad, jihada, c'est pas souvent du bois. Jihada, c'est faire l'effort. En fait, mais c'est faire l'effort en vue de quoi? Et là, la langue arabe nous donne l'idée. C'est en vue de faire ressortir la crème de notre être spirituel, de nos potentialités. S'il n'y a pas cette idée-là, ce n'est pas un djihad. C'est pas un djihad. Et donc là, je terminerai peut-être avec un petit clin d'œil avec la racine qara'a. Parce que quelque chose que souvent, une anecdote, qui est l'anecdote de la première révélation du Coran lorsque le prophète reçoit la surat Iqra, on a un hadith qui nous raconte cet épisode-là. Et souvent, on passe devant le mot djihad qui est utilisé dans cette anecdote et qui dit beaucoup de choses. Le prophète, al-Salat salam, dit, pour expliquer la racine, la première révélation, il dit que l'ange Gabriel lui est venu. Il dit ceci, lorsqu'il lui dit « Wama ana biqari », je ne suis pas de ceux qui coranisent, on va dire ça comme ça, voilà ce qu'il dit. Il dit « Fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni al-jahada ». Donc il dit, il m'a pris, il m'a recouvert, puis, il m'a recouvert jusqu'à ce que, c'est-à-dire, c'est comme une contraction, hein, avant l'accouchement, rappelez-vous, Qara, on avait dit, c'est l'idée d'accoucher, donc il y a des contractions à l'accouchement, il le serre fortement, d'accord? Et il dit, il va me serrer jusqu'à ce que Balara Mini, je suis ce qu'il il atteigne, il prenne de moi, Mini, hein, il l'atteigne pour moi, il me mature, moi, el-jahda, en général, c'est-à-dire le meilleur de moi-même, jusqu'à ce qu'il tire de moi le meilleur de moi-même. Alors, bien sûr, on peut le comprendre aussi comme el-jahda, dans le sens, il m'a donné, il a pris toutes mes forces en fait. Il m'a épuisé. Le djihad dans le sens de épuiser. Il m'a épuisé, mais on avait dit c'est dans quelle idée? Pour faire ressortir le meilleur de lui-même. Et donc ça c'est intéressant parce que là on comprend dans cette anecdote que ce que veut viser le prophète aussi alayhi salatu salam, c'est que l'ange Gabriel lorsqu'il le prend dans ses bras pour l'épuiser, pour le mener au bout de ses forces, c'est pour faire ressortir encore le meilleur de lui-même à deux reprises pour qu'il soit capable justement d'accoucher un iqra, dans le sens ici d'accouchement, de sublimation, rappelez-vous, de transmutation. Pour arriver à quoi? À transmettre, à accoucher du Qur'an al-Karim et à le transmettre et à l'ensemble de l'humanité. Wallahu a'lam. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur Mizan TV. Thank you.